RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Vous êtes avec les grandes gueules, c'est en direct sur RMC et RMC Story, avec aujourd'hui Barbara Lefebvre, l'enseignante en histoire-géographie, Abel Boyi, l'éducateur, et normalement, enfin la première heure, on avait Fatima Igbo avec nous. Là, d'un coup, elle a disparu, il ne me semble pas avoir vu arriver un rayon venu de l'espace.
Moi, je propose qu'on déclenche alerte enlèvement.
Voilà, alerte enlèvement.
Se trouve Fatima Igbo.
Volatiliser Fatima Igbo. Normalement, tu lèves la main quand tu demande à pouvoir t'absenter.
Mais c'est, s'il vous plaît, c'est bizarre pour une prof.
Monsieur,
hein.
Oui.
C'est pas très rassurant qu'une prof ne soit pas à l'heure.
Tu vois, on parlait de Manon Aubry, mais les profs, tu sais, on pourrait faire une photo et mettre sur Snapchat, par exemple.
Et bien sûr.
Voilà.
Le siège vide. Rigolez pas si ça se trouve, elle s'est évanouie dans les toilettes.
Absentéisme d'une professeure de français.
Il y a eu un accident de chasse, comme disait un grand-oncle.
Excellent.
On est vraiment dans les blagues. Je sais pas. On en est à la troisième.
C'est la deuxième heure des GG des grandes gueules. À 11h20, tout à l'heure, les Français voteront les 18 avril, le 2 mai. C'est un coup de gueule de Bruno Retailleau, candidat à l'élection présidentielle. Il dit 2 mai, parfait. C'est le lendemain du 1er où la gauche sera rassemblée pour, vous savez, les défilés syndicaux. Et là, il y voit quand même une espèce de distorsion et quand même de coïncidence fâcheuse de date. Alors, avantage à la gauche, on en parlera tout à l'heure à 11h20. Canicule, la troisième vague arrive. Quand vous voulez, madame la professeure.
Prends ton temps, Fatima.
Alors, imagine.
Il faut justifier votre absence.
T'as un mot de retard.
Voilà.
Justifie. J'ai invité des élèves à venir et ils étaient coincés à l'entrée. Donc voilà, deux petits quatrièmes qui sont là pour Laurent et Jimmy. Donc je voulais pas qu'ils restent coincés dehors.
Quel exemple voilà. Tu donnes à tes élèves.
Fatima, un coup, reprends ton souffle.
Voilà. Canicule à 10h20 vers une troisième vague. Est-ce que la France s'apprête à l'affronter correctement? Et vous-même d'ailleurs, moralement, est-ce que ça vous inquiète ou pas? On en discutera avec vous là dans un quart d'heure, 20 minutes au 32-16. Puisqu'on parle d'élection présidentielle, tout ça, on parlera de la date. Et là, ça y est, bah, on n'a pas le choix dans la date, puisque on a
le
calendrier qui est fixé. Là, parlons d'un des candidats, Édouard Philippe. Édouard Philippe, candidat à l'élection présidentielle. Selon lui, c'est ce qu'il disait ce matin chez nos confrères d'RTL, il n'existe aucune hypothèse où la France s'en sort sans travailler plus. Voilà ce que dit Édouard Philippe.
Bah oui, Édouard Philippe, alors, du coup, est constant parce que ça fait plusieurs années qu'il nous explique que les Français devront travailler plus longtemps pour assurer le financement du système de retraite. Alors, où on en est où précisément? Quand il était Premier ministre, il y a une première réforme des retraites qui a été débattue, mais c'est une réforme systémique, c'est-à-dire on changeait de système, on allait plutôt vers une retraite à point. D'ailleurs, lui, il n'était pas forcément favorable. Lui, ce qui comptait pour lui, c'était d'allonger la durée
avec un âge pivot
et de mettre un âge légal un peu plus loin, passer de 62 à 65 ans. Finalement, cette réforme n'a pas abouti. Il y a eu une deuxième réforme des retraites sous le deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron. On passait à 64 ans. Cette réforme a été suspendue dans un deal passé entre Sébastien Lecornu et les socialistes. Donc, on en est là aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il a raison lorsqu'il dit de toute manière il faudra travailler plus, il n'existe aucune hypothèse où la France s'en sort sans travailler plus.
Abel,
je pense qu'il a raison, mais pareil, il enfonce des portes ouvertes parce qu'il est enfermé dans un débat politique où les partis jouent leur égoïsme. Les Français veulent travailler, je pense, contrairement à ce que l'on croit.
Ils étaient dans la rue quand même massivement contre la dernière
réforme. Ils étaient dans la rue, je pense pas que c'était la majorité des Français, et comme on l'a dit à plusieurs reprises, les syndicats ne représentent que 10% des salariés, sans vouloir leur manquer de respect. Je pense que les patrons veulent embaucher, je pense que la majorité des Français veulent travailler, mais moi j'en ai marre que l'on voit toujours le prisme de la retraite à travers un âge légal en fait. Moi je suis pour une retraite par capitalisation, ce qui permettrait en plus de personnaliser en fait les filières et ce qui permettrait aussi de rééquilibrer l'aspect des
points bonus. Oui, mais est-ce qu'il faudra quand même travailler plus?
Parce que oui, mais ça oui, bien entendu, je pense que c'est le sens. Ben, on vit plus longtemps en réalité. Si demain je m'arrête de travailler à 60 ans et que je vis jusqu'à 93 ans,
faut bien le financer.
C'est-à-dire que mes enfants, ils vont payer quand même 33 ans de ma vie, donc oui, c'est un petit peu trop long. Donc, mais il faut pouvoir poser le débat d'une autre manière. Et surtout, quand on parle de la question de l'âge de départ, on ment en réalité, que ce soit 40 ans, 42 ans, 45 ans. même si on prend le projet d'LFI, 40 annuités, je commence à travailler à 28-29 ans, ce qui est l'âge en France du premier travail stable. Je ne partirai jamais à 60 ans, je partirai à presque 70 ans. Donc, il faut faire table rase et repartir sur un nouveau projet qui inclura mieux les travailleurs.
D'abord.
Mais il faut que j'ai aucune hypothèse où la France s'en sort sans travailler plus. Bah, sans travailler déjà tout court, hein. Parce que je crois qu'il y a 18,8% de chômage chez les jeunes.
Oui.
On est sur
et
une
les
moyenne.
Seniors.
Les seniors, ça a un petit peu, ça améliore tout doucement. On est dans la toute petite moyenne de l'OCDE. Mais le chômage des jeunes, c'est massif en France. On a un gros problème de formation, de jeunes qui sortent des scolarités sans formation. Parce que les formations de demain, en plus, on les connaît très, très affûtées avec une nouvelle économie. L'économie de l'IA, l'économie de la robotique. Je peux vous dire que je suis très 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 inquiète quand je vois le nombre de troisièmes qui sortent et qui vont aller au lycée général, alors que je peux vous dire que rédiger un texte de 10 lignes, ils n'y arrivent pas. Donc moi, je veux bien, il est gentil, travailler plus, mais déjà mettre au travail avec une vraie formation beaucoup de nos jeunes, ça devrait être ça, sa priorité.
Mais à
monsieur.
Pas l'autre.
Et puis par ailleurs, c'est celui qui a saboté la réforme de la retraite à points. Alors, je sais pas que j'admirais cette histoire de la retraite à points, mais monsieur Macron, au moins, avait mis un truc un peu nouveau sur la table. C'est vrai que c'était mal expliqué, mais je pense que monsieur Philippe y a été pour beaucoup. Comme ça l'intéressait pas, lui, il était à la Juppé, à l'ancienne, les parachins et les trucs. Il a tout fait pour que la réforme à points, elle capote. Et le ministre, il a pas non plus remis en cause les 35 heures. Donc, il est bien gentil, ce monsieur Philippe. Mais, quand il était au pouvoir, il a rien fait. Et en plus, c'est quasiment lui qui a déclenché la crise des gilets jaunes. Moi, vraiment, je me dis, il y a des gens, ils ont aucune honte à venir donner la leçon et nous dire, falloir que les Français travaillent plus. Je suis comme Abel pour la retraite par capitalisation au maximum, je le dis.
Oui, mais ça n'empêche.
On a intérêt tous à nous faire notre propre retraite, à investir le maximum qu'on peut, parce que, un, il faudra pas qu'on pèse non plus trop sur nos enfants. Moi, j'ai qu'une fille et j'ai pas l'intention, nous, on n'a pas l'intention à ce que notre fille nous ait sur les bras. Voilà, moi, ce que je veux, c'est avoir un maximum d'autonomie pour que ma fille elle puisse faire sa vie et qu'elle se dise pas, ben, j'ai les deux parents derrière, là, il va falloir que je les aide parce que ma retraite de prof, je vous dis pas la rigolade que ça va être. Donc, c'est à moi de me faire ma retraite. Donc, ce monsieur, j'ai pas besoin de lui, hein, travailler plus, machin. Je suis déjà en train de me débrouiller. Il y a déjà des tonnes de Français qui se débrouillent parce que sinon, on sait très bien qu'on va pas s'en sortir. Donc, encore une fois, qui s'intéresse plus au retour à l'emploi des seniors et à la mise à l'emploi des jeunes, et à en finir avec les 35 heures.
Et à la valorisation de la filière professionnelle.
Voilà, et après il viendra nous dire ces histoires de retraite à la noix. Là.
Vous avez vu comme la manipulation par les mots quand même. Parce que là vous dites d'accord ou pas d'accord, mais arrêtons-nous un instant. Aucune hypothèse où la France s'en sort sans travailler plus. Il a tout fait pour gommer les pronoms. C'est-à-dire il aurait pu dire, quand on dit ça en fait ça veut dire aucune hypothèse où la France s'en sort sans que... La France travaille plus. On dirait qu'il dit ça finalement. Il n'a pas dit sans qu'on travaille plus, ni sans que les Français ne travaillent plus. Il aurait pu, il y avait plein de formulations. Mais cette formulation-là, l'avantage, c'est qu'il désigne personne. Et comme on désigne personne, tout le monde va dire « Ah oui, oui !» Mais tout le monde se dit « Oui, oui,
mais pas moi !»
Le voisin qui ne travaille pas assez. Vous voyez, et c'est là que je trouve que c'est de la manipulation.
C'est pas très courageux.
C'est pas courageux du tout. C'est de la manipulation. Et c'est vraiment les formules creuses où on va adhérer, on a l'impression d'adhérer à un programme, alors qu'on adhère à une formule. Formule qui ne dit absolument rien. Parce que le cœur du problème, c'est qui? Si c'est pour que les gens qui travaillent déjà beaucoup travaillent encore plus, ça n'a aucun sens. Donc là, il s'arrange pour désigner personne. La France. Donc vous voyez les figures de style. Là, on a presque une allégorie de la France qui doit travailler. Ou une métonymie, on parle de la France pour désigner les Français. Quel Français, s'il vous plaît? Parce qu'il y a quand même des différences là entre ceux qui sont au chômage, ceux qui cherchent sans trouver.
Que l'artisan et le patron de TPE-PME, c'est même pas qu'ils travaillent, c'est qu'ils travaillent triple.
Complètement. Et moi, je
et
vois
l'URSSAF
des gens,
vient le lui rappeler.
Et on est entouré, moi, je vois beaucoup de gens crever autour de moi. Oui, la phrase que j'ai le plus entendue autour de moi, c'est déjà est-ce qu'on peut se voir? Ah non, mais là, je peux pas. Oh, et puis, je suis crevée. Et je suis crevée. Donc, on voit bien qu'il y a des gens qui se tuent à la tâche, physiquement. Et d'autres qui vont bien. Donc les gens, je pense, se disent ah oui, mon voisin doit bosser.
Oui, mais
je suis désolée, il y a rien de désigné
même,
là-dedans.
C'est même un peu exaspérant parce que on sait bien que tous les Français ne sont pas logés à la même enseigne. tu viens de parler de ceux qui font des travaux, qui ont un travail physique. Il y a ceux aussi qui s'emmerdent de boulot, il y a ceux qui sont pas très bien payés, il y a ceux qui au contraire travaillent trop et qui attendent avec impatience la retraite parce qu'ils sont épuisés. Donc effectivement, il y a aussi la retraite, pardon, des fonctionnaires et la retraite du privé. Je rappellerai que la retraite des cadres, elle est équilibrée, elle est financée. En revanche, la retraite des fonctionnaires, malheureusement, on est obligé d'emprunter pour la financer. Enfin, l'État met de l'argent et l'État emprunte sur les marchés pour financer. Donc, je trouve que ça serait plus courageux de dire précisant où on en est partout et qu'est-ce qu'on fait précisément. Et effectivement, alors derrière, est-ce qu'il faut effectivement trouver des systèmes pour que ceux qui font des travaux physiques terminent plus tôt, les femmes qui ont souvent des carrières hachées parce qu'elles s'arrêtent pour faire des enfants, qu'est-ce qu'on fait pour elles, etc. Je trouve qu'effectivement, tu as raison. Il généralise et en fait, il répond à aucune question qui angoisse les Français.
Ah ben ça, c'est Édouard Philippe, de toute façon. Édouard Philippe, il parle, mais
il va se faire élire sur une ambiguïté. Et quand il va rentrer dans le détail, eh bien, les gens iront dans la rue parce qu'ils diront, oui, monsieur Philippe, vous ne nous avez pas dit ça.
Et puis, c'est ça, son but. Il s'arrange pour désincarner.
Il
ne dit même pas les Français au travail. Il dit la France travaille. Vous voyez, pour désincarner, pour être dans une espèce de communion collective comme ça.
Il a indiqué qu'il pourrait passer par un référendum pour trancher une fois pour toutes la question des retraites.
Alors là, Édouard le pipeau, parce que ça fait combien de fois qu'on nous le sort ce coup du référendum, Monsieur Macron en 2017, combien de fois on nous a sorti le référendum?
Il a dit chaque année qu'il voulait en faire
tout le temps le référendum. On n'en a jamais vu l'ombre d'un.
Mais en plus, un référendum sur quoi? Est-ce que vous voulez plus travailler? Ça va être quoi la question?
Est-ce que tu veux que tout le monde...
Non mais soyons clairs, parce que Fatima, elle demande de la clarté. Le référendum, ce sera l'élection présidentielle. C'est ça le référendum.
Oui, à condition d'être clair.
Tu as raison.
Parce que si tu dis simplement, il faut travailler plus.
Bon. Ils vont raser gratis.
C'est pas très courageux. Il vaut mieux qu'Édouard Philippe, il dise dans son programme. Remarquez, son programme, il va l'affiner. On va aller encore loin l'élection présidentielle. Mais qu'il dise, il nous faut travailler plus. Pour travailler plus, voilà ce que je propose pour les retraites. Je veux en terminer avec les 35 heures et repasser à 39. Là, tu prends des choses précises et ton référendum, c'est quand tu te présentes à l'élection présidentielle et tu dis aux Français, voilà ce que je vous promets, vous m'élisez ou pas. Si on ne les lit pas, ben les Français auront parlé. Parce que c'est le référendum suprême, c'est bien celui de l'élection présidentielle, puisque tous les Français en âge de voter sont invités à y participer. Donc il est là et on a tous les programmes à ce moment-là.
Mais tout ça, ça confirme encore une chose. Je suis désolé, ça renforce LFI et le Rassemblement National. Ce sont les deux seuls partis, indépendamment de ce que l'on pense,
qui ont des programmes
packages, qui sont prêts. C'est-à-dire que la personne qui vote LFI.
Si tu peux, s'il te plaît, on francise.
Oui, des programmes. Oui, c'est vrai. Pardon, Fatima.
Elle a dit des paquets.
Ouais, j'ai dit des packages,
des programmes. Qui ont des programmes.
C'est-à-dire que la personne qui se dit je vais voter Mélenchon, ou la personne qui se dit je vais voter Bardella ou Marine Le Pen, peu importe, ces personnes savent où elles vont. Tous les autres, c'est le flou artistique. Et Édouard Philippe, en plus, il annonce depuis des mois que lui, son programme, ça va détonner. Il annonce des choses vraiment exceptionnelles, révolutionnelles.
C'est du teasing un programme qui sera disruptif.
Pour finir
par dire, il faut travailler plus.
On t'annonce Avengers et on va avoir les tuches à la fin.
Non, mais surtout, il faut travailler plus. Beaucoup de gens le disent. C'est pas ça être disruptif. Disruptif, c'est de dire précisément comment on fait.
Non, et en plus, révolution, je vous signale que le livre d'Emmanuel Macron, c'était Révolution. Il a été élu en disant je vais tout changer. Vous vous rendez compte? Donc maintenant, on va pas. Enfin, je pense que les gens vont pas se faire avoir.
Mais de toute façon,
Fatima, quelle naïveté. Attends que la petite machine médiatique se mette en route. Tu vas voir si on va se faire avoir.
Désespéré, je vous avais. En le disant, je me suis dit que je croyais plus.
L'honnêteté politique serait de dire quoi? Aujourd'hui, la France est dans un état catastrophique financièrement. Il faut un candidat qui a le courage de dire je vous propose un programme sur 10 ans. En prenant le risque de ne pas être élu au bout d'un quinquennat. Parce que pendant les 5 premières années, il ne va rien se passer. Même ceux qui vont voter Mélenchon ou ceux qui vont voter Bardella ou Marine, faut qu'ils soient vraiment réalistes sur ça. Il ne va rien se passer. On est obligé de passer par un moment d'austérité pour remettre les comptes. Parce que sinon, la France va droit dans le mur.
Tu me rappelles, c'était le programme de qui, Abel? C'était Fillon en 2017.
Il faut passer par là.
C'est tout. Peut-être qu'en 2017, si ça avait été Fillon, on n'en serait pas où on en est.
Quand il reprend les rênes, il fait de l'austérité.
On va aller écouter Sylvain, qui est du côté du département de la Sarthe. J'ai encore quelques blagues, hein, vous inquiétez pas.
Mais les contrepétries.
Mais j'ai rien dit encore.
Alors
Sylvain, chef d'entreprise dans la Sarthe, est-ce qu'il a raison, Édouard Philippe, travailler plus pour s'en sortir. Bonjour.
Bonjour, bonjour les grandes gueules. Alors, bonjour Edouard Philippe. Alors, j'ai envie de dire à l'instant T, il va avoir raison, mais je ne vais pas être d'accord avec lui parce que pour moi, repousser l'âge de la retraite, c'est tout simplement en fait de repousser le problème.
Ouais.
En fait, moi, ce que je pense et je suis convaincu, c'est il faut juste faire une capitalisation. Excusez-moi. Le fait de repousser l'âge de la retraite, ça ne va pas changer
quelque chose
sur la dette qu'on a.
Oui, mais capitaliser en travaillant moins, ça ne marchera pas non plus.
Ah bah après, tant pis.
Parce que pour capitaliser, il faut quand même travailler. Parce que l'argent qu'on va capitaliser, c'est l'argent du travail.
Tant pis pour celui qui bosse pas. Son métier,
c'est celui qui bosse pas, c'est tant pis pour lui. Il y a du travail en
France. Oui, mais il ne faut pas faire croire aux gens. Parce que la capitalisation aussi, pareil, on fait croire aux gens qu'ils vont tous avoir un gros pécule. Ce sera formidable. La capitalisation, c'est quoi? C'est ce que beaucoup de Français font. C'est le plan épargne-retraite, c'est lâcher un petit appart, etc.
C'est ce que vous faites, Sylvain.
Alors moi, pour moi, la capitalisation, ça sera le fait que les gens deviendront plus riches. Par exemple, aujourd'hui, il me semble que le salaire médian en France doit être de 2200 euros, quelque chose comme ça. Le patron va cotiser, par exemple, 700 euros qui va donner dans la retraite pour nos aïeux. Si cette somme-là, ce n'est pas l'État qui la gère, mais c'est vous-même et que vous la mettez sur un compte à 6-7%, voilà, ce qui est la moyenne, au bout de 42 ans, vous avez 1,3 million, 4 sur votre compte, au lieu des 320 000 euros, 350 000 euros qui sont distribués, divisés par le temps en retraite qui fait à peu près 1500 euros par mois. Voilà la réalité des choses. Et d'ailleurs, je vous invite tous à regarder le podcast de Mathias Bacino qui passe sur les jambes de Guillaume Play, qui explique très bien en une heure et demie qu'est-ce que c'est que le problème des retraites et la dette. On va dans le mur.
Ah bah ça c'est sûr.
Justement, Sylvain, après le tout étant d'accord. De savoir si on promet l'austérité et si on ne parle que de la dette, est-ce que ça vous fait élire? Ça, c'est toute la question, ce sera au cœur de la campagne électorale. Sylvain, qui nous appelle du Mans dans la Sarthe, je vous remercie. Vous savez, quand on a un auditeur du Mans, comment on le salue? Et vous passerez le bonjour à...
Henriette.
Merci.
Ah oui, Henriette Dumont. Oh là là.
Non, mais parce que là, on est dans la blague des boomers. Enfin, c'est un festival des blagues des boomers. Ouais.
Fatima.
Atterri.
Merci Sylvain d'avoir été dans les GG. Édouard Philippe, travaillez plus pour s'en sortir. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Avec
oui ou non? On va regarder votre réponse sur les réseaux
allégorie,
sociaux.
Allégorie, métonymie.
3, 2, 1, 0. Je crois qu'ils sont tous décédés en régie. Non. Oui, d'accord.
C'est
France
partagé.
Ils sont d'accord sur le principe.
À 54%.
Ouais, mais c'est pas gagné.
10h20 maintenant. La canicule, troisième vague qui arrive. Ça a chauffé hier à l'Assemblée nationale. Est-ce que la France est prête ou pas à affronter la troisième vague? Et vous, moralement? Parce que ça commence à partir de vendredi, après-demain. Et vous, moralement, comment vous vous sentez? C'est au 32-16 qu'on en discute.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4. Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, il est 10h25. Nous sommes avec Abel Boyi, avec Fatima Hidbounois, avec Barbara Lefebvre, deux profs, un éducateur, pour discuter maintenant de la canicule.
C'est la première fois que je sors de mes gonds parce que d'où sortez-vous ce bilan de 10 000 morts sur lesquels vous et les vôtres sont allés sur les plateaux de télévision depuis maintenant plus de 3 jours en établissant un bilan humain qui est faux. C'est scandaleux, c'est indigne. Un mort est un mort de trop. Mais de grâce, si votre formation politique, qui est un parti de gouvernement, ne fait pas confiance à Santé publique France, ne fait pas confiance à l'administration sanitaire du pays, comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Donc de grâce, madame la présidente, un peu de dignité et de responsabilité.
Il était colère, le Sébastien Lecornu, Premier ministre, hier à l'Assemblée nationale, quand il a été accusé par les écologistes de ne pas avoir préparé la canicule et d'être responsable de 10 000 morts. Alors là, les 10 000 morts, on ne sait pas d'où ils sortent.
Alors si, on sait maintenant, c'est le président du groupe écologiste au Sénat qui, dans une intervention, a dit « Si vous ne faites rien, en parlant du gouvernement, on atteindra les 10 000 morts. »
Ah,
d'accord.
Et Madame Châtelain, le temps que ça arrive à l'Assemblée, elle avait oublié le conditionnel.
Voilà, donc, Monsieur Lecornu... En fait un peu trop, parce que les écologistes, contrairement à ce qu'il dit, n'ont pas fait le tour des plateaux en disant il y a 10 000 morts. Ça, c'est malhonnête. Mais effectivement, ils ont brandi le chiffre de 10 000 morts pour faire peur. D'ailleurs, les écologistes ont décidé de faire tomber le gouvernement parce qu'ils ont déposé, enfin ils veulent déposer une motion de censure pour censurer Sébastien Lecornu en expliquant que le gouvernement n'a rien fait pour préparer la France à vivre une canicule. Alors là, ça va être la troisième puisqu'elle arrive hein, dès ce week-end. Il va refaire très chaud. Ça va arriver par le sud de la France et ça va durer entre 10 et 15 jours. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup puisqu'on a connu celle-là, on a connu celle de mai. Ça provoque des morts. Une surmortalité, ça fait du mal aux organismes, ça aussi crée des problèmes pour les agriculteurs, la sécheresse, etc. Est-ce que vous croyez qu'on est prêt cette fois-ci pour cette troisième canicule ou toujours on n'est toujours pas prêt, on est toujours à la ramasse?
Non, nous ne sommes pas prêts. Une autre question?
Non. Dans ta classe, c'est monté jusqu'à combien?
L'avantage, c'est que l'école, c'est fini ce vendredi.
Ouais, on va corriger. Non, il reste la correction du brevet, là, mais là, c'est les professeurs. Donc, on va être tous ensemble, on va corriger. Il fera chaud.
C'est les vacances.
On prendra nos ventilos. Non, mais plus sérieusement, il parle d'absence de dignité, de responsabilité. Mais là, tous manquent de dignité dans cette histoire. Là, on va pas commencer à compter. Un mort. La seule chose qu'il a dit, dans toute la phrase. Ce qui est bien, c'est un mort de trop. Je suis désolée. 10 000, on va arriver aux 10 000. Cette canicule-là, elle aura un parfum de 2003. Et les gens, pourquoi les gens sont en colère? Parce que la question, c'est où est l'argent? Où est l'argent? Ce jour où on a, justement, c'était pour la solidarité.
La journée de solidarité qui doit rapporter 3 milliards par an.
L'argent devait aller dans les EHPAD. C'était en 2003.
Si on a créé quand même des salles climatisées.
Oui, mais ce qu'on a vu, c'est qu'il y a que 10% des EHPAD qui ont pu changer, on va dire. Où est le reste? Et même si on me dit que ça a été refléché, dites-moi quelle est la différence entre reflécher de l'argent qui est destiné à une cause et détourner de l'argent public? Je pose la question. Donc, les seuls qui devraient être en colère comme ça, c'est le peuple. Voilà.
Barbara,
pas de téléphone en cours, monsieur Marchal.
Oui. tu comprends la colère de Sébastien Lecornu, hein?
Déjà, je comprends qu'on sait enfin qui est madame Châtelain, parce qu'on savait pas trop.
La présidente du groupe écologiste,
voilà, elle est contente, elle a eu son quart d'heure de célébrité, pour dire n'importe quoi à l'Assemblée. Les écologistes qui se permettent, alors que... Et c'est eux qui ont poussé à la fermeture de Fessenheim. C'est eux qui ont sérieusement écorné la souveraineté énergétique de ce pays.
Ce sont eux quand même qui ont alerté sur le réchauffement climatique.
Non, ouais, c'est pas les écologistes français. C'est les experts du GIEC.
Contre leur solution. Mais il faut reconnaître que eux, ils étaient les premiers à dire attention, les canicules vont se répéter. Il y a un réchauffement climatique. Il faut s'adapter.
C'est pas les écologistes en tant que parti, les écologistes en tant que parti. Voilà, c'est des scientifiques, c'est des Jean Covici, c'est des gens comme ça. Non mais Jean Covici, il a plus fait pour faire connaître cette question-là.
Il est pas écologiste. D'ailleurs, il a pas de compétences particulières en la matière. C'est un ingénieur. Bon.
Oui, mais sa BD, Le Monde de Demain, elle t'explique énormément de choses qui te font comprendre les grands enjeux énergétiques de demain.
Enfin, Nicolas Hulot, il y a 30 ou 40 ans, faisait dire d'ailleurs à Jacques Chirac, la maison brûle.
Je vais vous dire.
Regarde à côté.
Sur ce sujet, en tout cas, je préfère écouter Delphine Bateau que d'écouter Madame Châtelain. Parce qu'en plus, Madame Châtelain, sur certains sujets, t'as envie de t'arracher les cheveux, vu qu'elle y connaît rien, mais qu'elle en parle quand même. Je trouve que Delphine Bateau, au moins, elle est sérieuse parce que ça fait des années qu'elle bosse là-dessus. Donc, encore une fois, monsieur Lecornu, qu'est-ce qu'il peut faire de la situation? Il n'y a aucun sujet sur lequel monsieur Lecornu peut venir à l'Assemblée dire on est à l'œuvre, on fait avancer le pays. Il n'est pas là pour ça. Monsieur Lecornu, il est fait pour garder la maison au chaud, pour que monsieur Macron puisse terminer son petit mandat tranquille, continuer à se pavaner avec ses lunettes, et à se pavaner sur la scène internationale pour raconter tout et n'importe quoi, et c'est vraiment n'importe quoi ce qu'il fait à l'international. Monsieur Lecornu ne sert qu'à ça. Permettre à monsieur Macron de finir son mandat tranquille. Donc là, il fait semblant de s'énerver. Moi, j'aurais aimé qu'il s'énerve davantage sur des sujets autrement.
Fatima, ils sont tous pitoyables, on le redit encore. Quand on annonce des morts, faut quand même attendre déjà une communication officielle. Et quand on répond à une fausse accusation, faut aussi avoir un peu de dignité et ne pas exagérer. Donc on voit qu'il y a des gens qui essaient d'exister. Moi, ce qui m'embête avec les écologistes, c'est qu'avec leur motion de censure, dont on sait très bien qu'elle n'aboutira pas, c'est utiliser le drame que nous sommes en train de vivre pour pouvoir exister.
C'est la récupération
politique. Parce que c'est la cacophonie au niveau de l'organisation pour la présidentielle. Il n'y a pas de leader, ils sont pas organisés. C'est compliqué.
Il y a même une crise interne. Marine Tondelier est contestée en ce moment.
Exactement. Aujourd'hui, la France n'est pas prête. Et la problématique, c'est quoi? C'est que quand tu écoutes les solutions des politiques, c'est de dire on va tout climatiser. Non, le tout climatiser n'est pas une solution, c'est une réparation d'une anomalie. Mais quel est le projet qui vient ensuite, effectivement, pour que l'on puisse respecter les normes écologistes qui nous sont imposées? Donc il n'y a pas vraiment de projet. Et quand on prend les écolos, ils sont divisés sur tout, sur le nucléaire, ils sont divisés sur la clim. Quelques années plus tard, ils disent le contraire de ce qu'ils avaient dit il y a 10 ans ou autre. On a vu comment les écolos ont tordu le bras à Hollande, qui, mou comme il est, a permis la fermeture d'une centrale nucléaire. Il n'y a rien qui va en réalité. Donc tout ça, c'est...
Au-delà de la politique, parce que vous dites tout un peu la même chose, mais est-ce que là, c'est pas une fatigue d'apprendre qu'il y a une troisième canicule qui arrive, oui. C'est-à-dire quand même des
mais
gens
juste
qui,
dans
vivent,
la gestion,
qui vivent dans des fournaises, qui se disent on va encore avoir chaud pendant des jours et des jours.
Ce qui est intéressant, c'est de voir les commerçants depuis plusieurs jours qui sont dévalisés en ventilateurs, en climatisation mobile. Donc ce qui veut dire que finalement, les Français, ils s'équipent.
Oui, mais ça coûte. C'est plus polluant. Un climatiseur mobile que d'équiper ton immeuble de climatisation.
Je sais bien, mais le climatiseur mobile, c'est la solution rapide,
mais
facile.
Tu peux pas installer ton immeuble. Tu peux pas installer des climatiseurs dans ton immeuble. Il faut l'accord de la copropriété.
Oui,
il y a certains bâtiments. Voilà. Moi, j'habite Versailles. Je peux vous dire, à Versailles, vous avez énormément de bâtiments qui sont non pas classés, mais qui, par rapport au périmètre du château de Versailles, vous pouvez pas installer des climatiseurs. Ce sera pas autorisé, comme dans Paris, sur les immeubles espagnols.
C'est pour ça qu'il faut faciliter les choses.
Non, mais là, il y a le ventilateur et le alors, je veux juste te dire une chose, si je peux me permettre de le dire. Les ventilateurs plafonniers sont extrêmement utiles, surtout si vous achetez double sens.
Les pales
double sens, c'est-à-dire qui brassent dans un sens l'hiver, qui brassent dans un sens l'été. Donc c'est très efficace. Donc s'il y a des gens qui veulent commencer à s'équiper, optez pour le plafonnier en plus des autres ventilateurs. Maintenant, moi je suis désolée, la canicule, c'est pas la faute de Monsieur Lecornu. Excusez-moi, c'est un problème mondial de réchauffement climatique lié aux activités humaines. Et quand on accepte la mondialisation, quand on accepte le Mercosur, quand on accepte d'acheter des vêtements chez Temu et compagnie, eh ben on est tous responsables du réchauffement climatique. Faut pas non plus accuser Monsieur Lecornu de tout ça.
Et l'IA qui va envahir nos vies est un gros facteur polluant aussi.
Exactement.
Hein,
donc, mais l'eau, n'en parlons pas.
Mais ce qui va se passer, ce qu'on peut prédire, c'est lorsqu'on va utiliser Rungis à nouveau et qu'il y aura le choc de ces images-là.
Alors il faut expliquer pourquoi
Rungis. En 2003,
exactement.
On a dû, il n'y avait plus de place
dans les morgues,
et donc il y avait ces corps qui étaient à Rungis. On a dû réquisitionner.
Il y a des commerçants qui sont trompés d'ailleurs,
donc,
en récupérant.
Imaginez ça.
On n'en est pas là.
On n'en est pas là. Mais justement, anticiper, c'est intéressant. J'écoutais une chronique de Nora Amadi qui parlait des morts derrière les chiffres et qui avait justement une personne qui travaillait dans les pompes funèbres qui disait qu'il refusait des morts. Il refuse des morts par manque de place.
Donc, la question de
la mort, la question de la dignité du corps de la personne que tu as perdue, là, les gens aussi, ça va les mettre vraiment en colère. Oui, parce que comment faire le deuil quand le corps de la personne aimée est malmené comme
non,
ça
mais ce qui est
ou quand c'est en errance pour trouver un endroit pour
oui, vous voyez, les gens se sont remis quand on a maltraité les corps pendant le Covid et que M. Philippe interdisait aux gens d'aller aux enterrements. Ils s'en sont remis, les Français. Tu verras, ils se remettront.
Non, mais je pense pas que
ce qui est intéressant à noter, c'est qu'en 2003, la mortalité, elle était dans les EHPAD. Et c'était là le scandale. Et on s'est aperçu que dans les EHPAD, on ne protégeait pas nos aînés. Là, la mortalité, elle est à domicile. Donc ça pose deux questions. La question, effectivement, de ces personnes seules, que personne ne va voir pour essayer de les aider à passer ce moment difficile. Et ça pose la question aussi de l'équipement à domicile. C'est pour ça que je disais la clim. Bien sûr, si on interdit aux immeubles de s'équiper, aux copropriétés de s'équiper, ça va se reproduire. Il faut changer. Il faut que tout le monde puisse avoir la clim si on veut avoir la clim.
La mort quand tu es seul, c'est pas qu'une question d'équipement. Je te donne un exemple. Les personnes âgées qui vont mourir, très souvent, plus t'es âgé, t'as pas le réflexe de boire ou tu ne peux pas. Ce qui fait que
si chez toi t'as eu la clim,
il y a quelqu'un qui vient aussi et qui est là et qui va te faire boire, c'est exactement dans les maisons de retraite. C'est ça qui va changer. C'est le soin, l'attention, l'accompagnement. Donc ce n'est pas qu'une
une question technique.
Mais là, c'est pas un problème. Là, c'est pas un problème de l'État. Non, c'est-à-dire que si tu laisses ton grand-père ou ta grand-mère seul et tu vas pas la voir, tu vas pas l'aider, tu vois, faut pas non plus reprocher à Monsieur Lecornu.
C'est pour ça que je te dis, c'est une question d'équipement. C'est ça que je suis en train de te dire. C'est une question humaine.
Mais je t'ai dit,
ce qu'on observe dans le débat autour de cette canicule et les accusations qui sont portées sur le gouvernement, c'est le résultat de l'État nounou. À partir du moment où l'État n'arrête pas de vouloir avoir des réponses à tout et de te tenir par la main de ta naissance à ta mort et de te dire de ta naissance à ta mort, t'inquiète pas, l'État est là pour te soutenir ou pour t'engueuler ou pour te pousser. Qu'il nous lâche les baskets. Moi, vraiment, je
ne veux pas. Mais est-ce qu'il veut vraiment nous lâcher les baskets
et on va se débrouiller.
Oui, mais alors, dans ce cas-là, il faut laisser les gens pouvoir faire ce qu'ils veulent.
Oui, tout à fait. Oh,
l'État met des contraintes sur tout.
Ah, mais moi, je suis devenue milléiste. Qui nous laisse tranquille.
L'État est nounou et ne veut pas nous laisser notre indépendance et nous repose de ne pas assez travailler.
Tu veux installer une clim, tu ne peux pas parce qu'il y a une norme qui l'empêche. C'est ça aussi le problème.
Exactement.
Moi, les seules politiques sur lesquelles je compte, ce sont les maires. Pour moi, ce sont les seuls qui sont encore
dignes.
Non,
avec les écoles, ils n'ont pas été très bons.
Non, mais bien entendu, mais ils subissent aussi les facéties de l'État. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la seule solution, c'est la gestion et c'est l'humanité, comme tu as dit. Moi, je vois beaucoup de maires qui font de la prévention, qui incitent justement leurs administrés à prendre soin les uns des autres, à regarder comment le voisin, la voisine.
Il faut revenir sur ça.
Après-demain, ça commence.
Ils mettent des volets à leurs écoles.
Et le nombre suffisant d'infirmières dans les hôpitaux, d'aides-soignantes pour pouvoir faire dignement son métier, pouvoir passer dans les chambres des personnes âgées aussi. Tu peux pas quand t'es seul comme ça t'occuper de 10 personnes, 20 personnes.
On précise qu'il y a une vague de chaleur qui arrive, mais on n'en a pas terminé dans le sud de la France. Il faut encore très chaud. Donc en fait, ça va s'enchaîner et revenir sur une majeure partie du pays pour à peu près une semaine. 11h25, dans un instant, les Français voteront les 18 et 28, les 18 avril et les 2 mai. C'est la date de l'élection présidentielle. Et en fait, est-ce que ce sont des dates qui avantagent la gauche? C'est ce que dit Bruno Retailleau, l'ancien ministre de l'Intérieur, candidat à l'élection présidentielle. On va essayer de comprendre pourquoi et vous en parlez avec nous au 32-16.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules.
Les GG, les Grandes Gueules en direct sur RMC, RMC Story avec Barbara Lefebvre, avec Fatima Aïd-Bounois, avec Abel Boyi et les dates de la prochaine élection présidentielle. Pour élire le prochain président de la République, le 18 avril 2027 pour le premier tour, dimanche 2 mai 2027 pour le second tour. Et là, ça ne convient pas à l'un des candidats, monsieur Bruno Retailleau, ancien ministre de l'Intérieur.
L'autre choix permis à l'exécutif aurait été les 11 et 24 avril, mais Emmanuel Macron a décidé donc de faire voter les Français les 18 avril et 2 mai. Et là, ça fait réagir Bruno Retailleau qui estime que choisir le second tour au lendemain du 1er mai n'est pas neutre. Pourquoi ? Parce que il faut souligner que la campagne s'achèvera donc le vendredi précédent le dimanche 2 mai, c'est-à-dire que on n'aura plus le droit de faire des meetings, les politiques devront se taire, on ne pourra plus dans les médias citer ces politiques. Sauf que le 1er mai, ça sera les cortèges syndicaux. Et on imagine bien, à la veille du deuxième tour, des syndicats qui sont quand même en France très politisés, manifester avec des banderoles. Imaginons par exemple que Jordan Bardella ou Marine Le Pen ont réussi à se qualifier pour le second tour. Il y aura sans doute une mobilisation syndicale très anti-RN. Et donc ça fausse quand même un peu les choses. Est-ce que Macron a fait exprès ? Ça, on ne le sait pas. En tout cas, Bruno Retailleau estime que ce n'est pas bien d'avoir choisi ces dates.
Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que ça donne un petit avantage à la gauche? 32-16 pour le dire au GG, Abel, Barbara et Fatima.
Déjà, moi, Barbara, si j'avais choisi la date, ce serait le 4 septembre. Déjà, parce que moi, plus vite ça se termine, mieux je me porte. Donc déjà, savoir qu'on va être obligé de traîner jusqu'en mai. Ah non, mais je pense que s'il avait pu nous caser ça au milieu du mois d'août, il l'aurait fait, hein, monsieur Macron.
Je vous rappelle que le président de la République, quelles que soient les dates, est président jusqu'au 14 mai.
Donc ça n'a rien à voir. Il peut partir avant. Long.
Giscard, par exemple, était parti avant. Oui. C'est-à-dire qu'il n'avait pas attendu la date fixée. Il était parti au lendemain du 8 mai 1980.
Ah, je crois que s'il y en a bien qui restera jusqu'au bout, jusqu'à la dernière seconde.
Sous les sifflets.
Celui qui restera jusqu'à la dernière seconde, c'est bien Emmanuel Macron. Alors ça, je pense que là, on a... Non, mais bien sûr que c'est fait exprès. C'est fait, mais c'est vraiment fait exprès. C'est-à-dire que son objectif, c'est de faire instiquer l'objectif de M. Macron, je pense. c'est le ticket secret. Son rêve, c'est Mélenchon, je pense, à M. Macron.
Ah bon ?
Ah oui. Je pense que
tu pars du principe que Mélenchon sera second tour.
Parce que c'est je pas, pense ça, que c'est pour M. Macron, tout ce qui va conduire au chaos, et c'est-à-dire par exemple une confrontation RN-LFI au deuxième tour, ça va arranger M. Macron. Pourquoi ? Parce que d'abord, personne ne lui succédera de son camp. Donc ça, il est ravi. La France s'enfoncera dans un dans une situation extrêmement difficile en termes de chaos, non seulement de chaos en termes de chaos civil d'ordre public, mais de chaos administratif, parce que moi je prédis que dans l'administration et la haute administration, il va y avoir une bronca à cause de l'infiltration d'un certain nombre de syndicats politisés dans la haute administration, et je ne dis pas seulement l'administration, je dis la haute administration.
Pas sûr qu'elle soit l'édifice à haute
administration. Si, vous verrez. Et donc, je pense que ça arrangerait M. Macron, que ça se passe comme ça. Donc, il fait tout ce qu'il peut et il fera tout ce qu'il pourra jusqu'au bout pour que la confrontation, ce soit RN-LFI, parce que ça le sert. Et ça le sert pendant 5 ans, parce qu'il a bien l'intention de revenir nous pomper l'air.
Si, voilà. Je pense qu'il veut revenir en 2032, mais Macron, c'est un joueur de poker. Déjà, il a dissous l'Assemblée, il s'est planté, mais il ne reconnaît pas. Il y avait quand même cet hypothétique projet d'une nouvelle dissolution avant la présidentielle pour savonner la planche, soi-disant, au Rassemblement National. Et Macron, il y a un truc où il est intelligent, et c'est là où les Français, il faut qu'on fasse attention, on est très fort pour regretter ce qu'on a détesté. Mitterrand, quand il finit ses deux septennats, tout le monde dit on en a marre. Quelques mois après, c'était un héros. Chirac, c'était le roi fainéant. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il était humain, qu'est-ce qu'il était génial. Il n'y a que peut-être Sarkozy et Hollande qu'on regrette pas trop, mais quand même, on a toujours ce côté de dire, finalement, c'était pas mal. Et évidemment que Macron, il va tabler sur ça. Mais effectivement, quelle idée de mettre ça le 1er mai, je comprends pas.
Ah oui, je suis désolé. Certains disent que, d'accord, le 1er mai, c'est le 2 mai, hein, le 2 mai, donc le 1er mai. Pardon, le 2 mai. Mais le 1er mai, il peut y avoir de la casse. Il peut y avoir, ou ça peut dégénérer.
Les affaires de qui?
Et si ça dégénère, ça fait pas les affaires du candidat de gauche. Ça fera si Mélenchon de ce second tour.
Tu sais quoi? Je pense que cette fois-ci, comme par hasard, le 1er mai 2026 va bien se passer. Tu vois? Comme par hasard, le service d'ordre de la CGT sera particulièrement vigilant. Que la LFI sera en costume cravate, ils auront laissé tomber tout leur attirail de militants, bref. Vous allez voir. Et puis de toute façon, d'ici là, Monsieur Mélenchon, ça sera devenu.
Oui, mais toi, tu pars du principe que Mélenchon est au second tour.
Le Mahatma Gandhi, donc.
Mais on peut imaginer un second tour avec Édouard Philippe, puisque c'est plutôt ça. Alors, pour l'instant. Édouard Philippe sera quand même soutenu par la gauche.
Je te donne la parole dans deux secondes, le temps de passer par le Gard, par la ville de Nîmes, retrouver Aurélie, qui est agent immobilier. Bonjour Aurélie.
Bonjour à tous. Bonjour.
Effectivement, ces dates vous interpellent ou pas, Aurélie ?
C'est la participation qui va prendre. Les gens, le 1er mai, ils posent des jours pour avoir le pont. Donc les gens, ils ont autre chose à faire que de venir voter.
Là, il n'y aura pas de pont.
Il n'y aura pas de pont, c'est le premier samedi 1er. Et dimanche 2.
Ils arrivent toujours à se débrouiller pour avoir un pont, les gens, je vous assure.
Après, voté au mois de mai. Enfin, c'était lui-même.
Au mois de mai ou le 7 mai, je me rappelle très bien, parce qu'il a été élu Emmanuel Macron, c'était l'anniversaire de ma maman. Mais quand même, le 2 mai, ça arrange personne. Même si vous dites qu'il n'y aura pas de pont, il y aura forcément. Il y a des gens qui s'en vont tout le temps pour le mois de mai, je le sais, ils sont chez moi.
Ils ne peuvent plus voter en mai, alors.
Dérogations.
Ouais, déjà voter en mai, je trouve ça débile parce que c'est le mois où il se passe absolument rien. C'est le mois.
Pas aller voter en avril, quoi.
Oui, voilà, fin avril, ça c'était.
Et la première présidentielle, je crois, avait lieu en novembre ou en décembre, de mémoire.
Et puis voilà, mais après, avantage à la gauche, franchement, je suis vraiment pas persuadée. Moi, il n'y a aucun monde où Mélenchon sera au deuxième tour. Je refuse que ça se produise. C'est non.
Voilà,
en tout cas, pour l'instant, les sondages ne donnent pas ça.
Mais
pas
vous verrez ça. La petite. Mais parce que pour l'instant, on est très très loin. Mais vous allez voir quand les candidatures.
Toute la gauche se mettra derrière Mélenchon.
Quand les candidatures vont s'effriter. Et que lui. Non, mais les candidatures vont s'effriter. Et surtout, il va changer. Là, vous verrez, ce sera Gandhi.
Le débat, c'est pas sur Mélenchon. Le débat, c'est sur les dates. Fatima.
Alors, moi, je pense qu'il résonne avec un vieux logiciel, et ce qui va être déterminant, ce sont moins les dates que les faits divers qui vont précéder ces élections et ces dates. C'est-à-dire que les faits divers vont avoir, et notamment les faits divers médiatisés, vont avoir un impact incroyable. C'était déjà le cas. Je parle souvent de Papivoise, où il y avait toute une étude sur ce fait divers, comment.
C'était un retraité qui s'était fait agresser en 2002, juste avant l'élection présidentielle, et ça avait peut-être, dit-on, favorisé Jean-Marie Le Pen au deuxième tour.
L'instrumentalisation, comme d'habitude. Non, mais
donc, les faits divers vont avoir un impact. Et ce qu'on néglige aussi, c'est Internet et ce que ça a changé dans l'effet même du groupe. C'est-à-dire qu'avant, pour qu'il y ait un phénomène, et on le voit hein, avec n'importe quoi, avant pour qu'une chose devienne populaire et touche un grand nombre, il fallait un peu de temps, et après on avait un gros groupe. Maintenant, on n'a plus des groupes, on a des nuées. Et le phénomène de nuée, vous voyez, c'est ça prend vite, ça peut devenir énorme, et après, ça repart. Et ce phénomène de nuée, les politiques l'ignorent totalement.
Non, ils ne l'ignorent pas du tout, Fatima, parce que c'est pas des nuées, c'est des trolls d'ingérence d'États étrangers qui jouent sur les algorithmes.
Il y a deux choses. Donc, pour jouer sur ces nuées et sur la nouvelle façon de se rassembler, ce qui va avoir un impact, c'est l'ingérence étrangère avec les faux comptes générés par l'IA. Et ça, effectivement, ça doit être le sujet majeur. De la même manière que, je vous le dis, même si je ne serai, que je sois là ou pas dans les grandes gueules l'année prochaine ou les années à venir, ce dont vous allez parler énormément, ce sera les deepfakes pour, avec des jeunes filles.
Oui, mais la restriction sur la date.
Donc, tout ça, on va l'avoir à partir de la présidentielle. Donc, je vous dis, c'est moins la date que
mais
les faits divers.
Moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi Macron se met dans cette polémique. Il aurait dû prendre les deux dates précédentes. Mmh. Parce que c'est vrai que c'est bizarre de mettre le 1er mai au cœur, entre les
pour
deux tours.
Pour continuer à nous pomper
l'air
jusqu'au bout.
On sait très bien qu'en France, on a des syndicats qui sont très politisés. Ce n'est pas forcément le cas ailleurs, notamment la CGT. Donc, c'est vrai qu'on voit très bien. Ouais. Parce que même si c'est Édouard Philippe au deuxième tour, la gauche se rangera derrière Édouard Philippe. Il y aura un appel au Front républicain, comme à chaque fois. Donc, on voit très bien la banderole. Halte au fascisme. Faisons barrage aux nazis. Bon, c'est sûr que ça peut avoir une incidence.
Mais justement,
sur la mobilisation électorale.
Ça peut être un calcul, mais ce n'est pas.
Ça a marché trois fois.
Je pense vraiment.
Une fois contre Jean-Marie Le Pen et deux fois contre Marine Le Pen.
Il y a un aspect de sa psychologie qu'on ne comprend pas. Jusqu'au bout, il veut être le maître des horloges. Jusqu'au bout, il veut décider. Jusqu'au bout, il veut être dans des espèces de choses complètement illogiques sur lesquelles les gens vont pas bavarder pour dire que veut dire Macron. Est-ce qu'il a une idée géniale et intelligente. Il veut complètement mettre la pagaille jusqu'au bout, c'est tout.
Aurélie, je voulais justement vous poser une question à ce propos. La campagne présidentielle, là, vous la regardez avec intérêt ou vous dites c'est pas le moment, on verra à la rentrée, Aurélie, dites-moi.
Moi je suis parce que c'est intéressant et parce que ça me plaît. Après, là, moi, ce que je reproche pour l'instant, c'est que je pense qu'on va se retrouver avec une flopée de candidats, quoi. Ouais. Ils veulent tous y aller. Moi, je trouve que c'est dommage. J'attends avec impatience de savoir si Marine Le Pen pourra.
Il y a 40 candidats déclarés, là.
Ouais,
mais vous vous rendez compte.
Ça, c'est la semaine prochaine.
Oui, mais il y en aura moins à la fin.
Je pense que justement, pour mobiliser les gens qui sont pas intéressés par la politique comme moi, ça va être difficile d'avoir trop de monde. Parce qu'ils pourront pas trier.
Mais il y en aura pas 40.
Vous savez, il y aura les 500 40, signatures, ouais, ça va écrémer
rappelez-vous
aussi.
Rappelez-vous la fois d'avant, c'est pareil, il y avait déjà beaucoup de monde.
11, 12.
Oui, je crois que le maximum, c'était en 2002, de mémoire, c'était 16.
Ouais. Moi, la question que je me pose, c'est pourquoi c'est Macron qui décide des dates, en fait? Ça s'est toujours fait, ça?
Parce que c'est notre bon roi.
Non, mais c'est parce que c'est ce que c'est la France.
C'est la France royaliste, mais il y a un truc.
Non, mais je suis d'accord.
Oui, c'est ça.
Mais de toute façon, lui, il est président jusqu'au 14 mai. Donc il faut voter avant le 14 mai, voilà.
Mais ce qui est intéressant cette année par rapport aux autres années présidentielles, c'est que la classe politique est tellement radicalisée de toutes parts qu'on aura très peu de personnes qui se diront semaine, je change mon vote, en fait. Les personnes qui savent pour qui elles vont voter aujourd'hui, ça ne bougera pas et tout se jouera sur des personnes comme vous, Aurélie, ou comme moi, qui ne savent pas encore vers qui ils vont aller. Et
c'est pour ça qu'une mobilisation syndicale,
ça va se jouer là, en
le
fait.
1er mai, ça peut jouer dans la mobilisation, notamment de ceux qui sont un peu indécis.
Les faits divers vont jouer.
Mais tout joue.
Merci Aurélie d'avoir été avec nous.
Une affaire Liana.
À bientôt Aurélie, parce qu'on a discussion sur l'élection, bien sûr. On va en avoir, sachant que la semaine prochaine, je crois que c'est quand est le meeting d'Edouard Philippe là.
C'est ce week-end.
À l'Adidas Arena.
La semaine prochaine, la date importante, c'est mardi prochain, le 7 juillet. On saura si c'est Marine Le Pen ou Jordan Bardella qui sera le candidat du Rassemblement National. Ça va être le coup d'envoi de la présidentielle.
Et là, la campagne sera lancée.
Dans un instant, mais tiens, de l'élection présidentielle, on pourra en parler avec notre invitée Nathalie Saint-Cricq, l'éditorialiste politique sur France Télévisions. Elle sera avec nous. Elle est romancière aussi. Elle est avec ce roman, La Petite Mère, aux éditions de l'Observatoire. Et puis on parlera d'une proposition de la France Insoumise pour ou contre une 6e semaine de congés payés. Venez en discuter avec les grandes gueules. La 3e heure démarre et on vous attend au 32-16.
RMC, 9h midi. Les grandes gueules.